Bonjour à tous. Les Français toujours indifférents aux élections. Seulement 12,66% de participation à la mi-journée. Pour le second tour des régionales et départementales, un taux quasiment identique au premier tour. Ariane Grissel au ministère de l'Intérieur et Delphine Evenoux dans un bureau de vote des Yvelines dans un instant. Alerte aux variants Delta qui gagnent du terrain partout dans le monde. Le Portugal, désormais premier pays européen où ce variant est majoritaire. En France, les médecins rappellent que la vaccination reste le seul bouclier efficace contre ce variant. Démission du ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. Il n'a pas respecté les règles sanitaires. Il a été surpris en train d'enlacer une de ses conseillères. Dans ce journal également, une opération anti-déchets à Marseille. Et le Tour de France, deuxième étape aujourd'hui avec Julian Alaphilippe en jaune. La météo, de la pluie et des orages importants. 19 départements placés en vigilance orange, pluie, inondations ou orages. Jean-Michel Golinski, météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
Le taux de participation en question pour le second tour des élections régionales et départementales après une abstention record au premier tour dimanche dernier. Votera, ne votera pas, tous les regards se tournent vers le niveau de participation et à la mi-journée, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation est quasiment le même que dimanche dernier, en très très légère progression. Calme plat ce matin dans les bureaux de vote. Ariane Grissel au ministère de l'Intérieur.
12,66% des inscrits sur les listes électorales s'étaient déplacés à midi en France métropolitaine, à peine plus donc que la semaine dernière où la participation était de 12,22% à midi et nettement moins encore une fois qu'aux dernières régionales en 2015 pour lesquelles la participation au second tour était de près de 20% à la même heure. Si l'on regarde la mobilisation par région maintenant, ce sont encore une fois les Corses qui se sont le plus déplacés ce matin dans les bureaux de vote. 24,87% de participation, 2 points de plus donc qu'il y a une semaine, suivi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 16,54%. Là aussi, une hausse de 2 points par rapport au premier tour. Puis vient la région Bourgogne-Franche-Comté avec 14,87% de participation. En revanche, les habitants d'Île-de-France se sont peu mobilisés ce dimanche matin avec le taux de participation encore une fois le plus faible. 8,59% des inscrits sur les listes électorales étaient allés voter à midi.
En Ile-de-France, à la mi-journée, on vient de l'entendre, comme dimanche dernier, les électeurs ont effectivement très peu voté, une faible mobilisation. Alors qu'en général, on vote plus au second tour d'une élection qu'au premier. Reportage dans un bureau de vote des Mureaux, dans les Yvelines. Delphine Evenoux.
Sur un écran géant, bureau de vote de la mairie, le taux de participation s'actualise en temps réel, moins de 7% à midi. La semaine dernière aussi, l'abstention était très forte ici aux Mureaux, 80%. Pascal vient de mettre son enveloppe.
Ça ne me surprend pas parce que ce sont des élections un peu particulières. Déjà de mettre deux types de vote cantonal, régional en même temps. Et puis un premier vote avec une sortie de confinement, un besoin aussi de se dire j'attends le deuxième tour.
Entre l'isoloir et l'urne transparente, Jean-François attend son tour, électeur assidu, sauf la semaine dernière, loin du bureau de vote, procuration oubliée.
Non, j'ai pas du tout culpabilisé. Je ne fais pourtant pas partie de ces gens qui dédaignent ce genre d'élection, mais je pensais que de toute façon le tri se ferait au deuxième tour. Donc c'est pour ça que je suis là.
Derrière le registre des inscrits, Daniel, assesseur, natif des Mureaux, reste optimiste.
Il y a eu des périodes où il y avait un flux constant, quoi. Que la semaine dernière, des fois on attendait un quart d'heure sans voir personne. Là. Il y a des gens qui n'ont pas voté la semaine dernière, qui viennent voter aujourd'hui, et ils sont assez nombreux quand même.
Mais dehors, des muriotins passent leur chemin en haussant les épaules, pas toujours au courant du type d'élection qui se joue aujourd'hui. Ils ont jusqu'à 20h pour glisser leur bulletin.
À voter.
Et ce soir, édition spéciale sur France Inter avec une soirée électorale de 19h à 22h, animée par Claire Servageon. Attention au variant Delta qui est en train de prendre le dessus. De cluster en cluster, de pays en pays, ce variant gagne du terrain un peu partout dans le monde. Ce mutant redoutable, né en Inde, est 2,5 fois plus contagieux que la souche originelle et également de 40 à 60% plus transmissible que le variant Alpha, le variant britannique. Au Royaume-Uni, le nombre d'infections augmente de 30% chaque semaine. Et au Portugal, le variant Delta est désormais majoritaire. Il représente plus de 70% des cas. Le Portugal, premier pays d'Europe où ce variant est dominant, annonce un retour des restrictions. Sur place à Lisbonne, Marilyn Darcy.
Lisbonne recule dans le déconfinement. Elle est désormais responsable de 70% des 1500 nouveaux cas enregistrés chaque jour. Les restrictions sont sévères puisque le week-end, bars et restaurants ferment à 15h30 et les commerces à 19h. Elles le sont un peu moins en semaine avec des fermetures commerciales à 21h ou 22h30. Les jauges pour les événements culturels, les terrasses et les rassemblements familiaux sont revus à la baisse. Le télétravail redevient obligatoire. Pour le second week-end consécutif, il est interdit de sortir de l'AML, l'agglomération urbaine de Lisbonne, ou d'y entrer, sauf si l'on est muni d'un certificat Covid, comme celui qui sera mis en place dans toute l'Europe au 1er juillet. Le gouvernement veut empêcher la dissémination au reste du pays du variant indien, le fameux Delta. Lisbonne et sa région, c'est 3 millions de personnes, un tiers du Portugal, sous cloche en week-end. À Lisbonne, Marie-Line Darcy, France Inter.
Et en France, le variant Delta gagne également du terrain et sa progression inquiète. Des clusters sont signalés dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine, mais également en Île-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au point que selon les scientifiques, le variant Delta pourrait devenir majoritaire en France dès la fin du mois d'août, mais également en Europe où il pourrait représenter 90% des cas selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Seule protection efficace, seul bouclier contre ce variant, la vaccination. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine, estime qu'il faut maintenant changer la doctrine sur la vaccination. Benjamin Davido, interrogé par Véronique Julia.
Oui, il faut redire que le seul rempart aujourd'hui avec ces variants très transmetteurs, c'est soit on fait la maladie, soit on veut se protéger et donc on se vaccine. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a aucun intérêt à se contaminer. D'abord parce que chez les jeunes, on sait maintenant, il y a une publication dans Nature qui l'a bien étayé chez les 16-30 ans, qu'il y a un véritable risque de faire des Covid longs et donc se retrouver avec des gens qui sont extrêmement fatigués, qui vont aussi consommer du soin et consommer de l'hôpital. La réalité, c'est qu'on a gagné une bataille et pas la guerre. Cette vague, elle est extrêmement difficile à prédire parce qu'elle dépendra du pourcentage de la vaccination, c'est-à-dire des gens qui ont reçu 2 doses. Et c'est bien là toute la différence avec le variant Delta, c'est que pour être protégé, il faut avoir eu ces 2 doses et qu'il faut très clairement maintenant, avec des systèmes de communication, des nouveaux canaux, les réseaux sociaux et puis la vraie vie, c'est-à-dire aller voir les gens au bord de la plage, à la montagne pendant les vacances, pouvoir communiquer sur la nécessité de se vacciner. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une tranche incompressible qui arrive encore à l'hôpital avec des formes sévères. Et j'entends souvent à l'hôpital, trop souvent, ça fait un an qu'il y a la pandémie, je suis pas tombé malade, donc ça voulait dire que je ne risquais plus rien. Et comme ils finissent à l'hôpital, la preuve en était que non. Et puis surtout, l'objectif, soyons clairs, c'est d'aller récupérer cette jeunesse qui est difficilement captive puisqu'il y a les départs en vacances. Et donc, je crois qu'il faut être dans l'incitation. Il faut finalement qu'il y ait un bénéfice à cette vaccination. Et donc, on peut tout à fait réinventer les choses comme ça a été fait dans beaucoup de pays. Il y a des systèmes, par exemple, de loterie. Quand on vous propose et que vous êtes jeune, un ticket pour peut-être vous rembourser vos vacances alors que vous allez partir en Airbnb avec un groupe de copains, on pourrait imaginer qu'on vous offre un t-shirt. Eh bien, ça, ce sont des mesures à l'incitation vaccinale. Et ça, c'est des choses qui parlent aux jeunes, parce que bah, d'abord, quand on est jeune, on n'a pas toujours les moyens. Et encore une fois, je pense que pour réussir ce challenge, il nous faut des ambassadeurs. Il faut des jeunes, il faut des Instagrammeurs, des McFly et Carlito, il faut des Mbappé, il faut des ambassadrices, des ambassadeurs, il faut qu'ils se multiplient, qu'ils soient le symbole de cette jeunesse, parce que la réalité, c'est que ces gens jeunes, ils sont dans l'instantané, ils sont dans la téléphonie, ils sont dans la technologie, et ils veulent tout de suite. Et donc, il faut leur donner ce qu'ils veulent.
Benjamin Davido avec Véronique Julia. Et malgré cette menace du variant Delta, il y a des signes qui montrent que la vie reprend. Les salles de cinéma, où les jauges seront bientôt supprimées. On peut d'ailleurs déjà manger du pop-corn en regardant un film. Les règles s'assouplissent également dans les festivals. Ce week-end, par exemple, en Haute-Saône, 4e édition du festival Rétro Geek, organisé par l'association Bande de Gosses. Il s'agit du premier grand événement en Franche-Comté depuis le dernier déconfinement. Même si une nouvelle configuration spécial Covid a été mise en place au parc des expositions de Vesoul, Alia Doukali, France Bleu Besançon.
À l'entrée, les agents de sécurité scannent les QR codes. Il faut une attestation de vaccination ou bien un test Covid négatif.
Alors, celui-là, c'est le mien. J'ai les 2 vaccins. Ça, c'est le test de la grande...
Gérard est accompagné de ses 3 filles. Okay, bon. Et pour cette sortie en famille, ils se sont bien organisés.
Oui, on a tout prévu, oui. On a été faire tester les petites ce matin. Puis après, ben, moi, j'ai eu ma 2e dose cette semaine. Ça me permet de pouvoir faire un petit peu des activités qu'on ne faisait plus. Ça fait du bien.
Pour Pour ceux qui n'ont pas les documents, un espace de dépistage est prévu sur place, explique Emmanuel Boisery, coordinateur dans la lutte anti-Covid sur le festival.
On va pouvoir nous les tester sur place avec un résultat en 15 minutes. Ils auront un papier qui leur permettront de rentrer dans le festival pour que tout le monde soit protégé.
Un dispositif qui arrange bien Sandrine, une habitante de Vesoul, venue très tôt avec une amie.
Parce qu'on travaille et que moins de 48 heures avant, on n'aurait pas été dans les délais et on ne serait pas arrivé à l'heure qu'on aurait souhaité, en fait, tout simplement.
Même si un peu plus de 500 personnes ont joué le jeu du pass sanitaire samedi, les organisateurs du festival constatent une grosse baisse de la fréquentation, moins 75% cette année, une baisse qu'ils attribuent au pass sanitaire.
Et ce variant Delta inquiète également le gouvernement canadien qui va, à partir du 6 juillet, adapter les règles pour les voyageurs arrivant au Canada. Règles assouplies pour les Canadiens rentrant chez eux, fini la quarantaine obligatoire, y compris pour ceux qui sont vaccinés. En revanche, pour les autres touristes, la frontière entre le Canada et les États-Unis restera fermée au moins jusqu'au 21 juillet et les touristes en provenance d'Europe seront toujours interdits de territoire canadien. Pour les restaurateurs, les commerçants et les professionnels du tourisme à Montréal, c'est une catastrophe. Hélène Jouan à Montréal.
Place Jacques-Cartier, le cœur touristique de la vieille ville de Montréal, les terrasses des restaurants sont vides.
C'est comme ça tous les matins, puisqu'il n'y a aucun touriste, que ce soit d'Europe, des États-Unis ou du reste du monde. On est à 50% de notre capacité.
Sacha Brand, patron de pizzeria, est pressé de retrouver des clients, notamment ses voisins du Sud.
On a hâte quand même que la frontière s'ouvre avec nos voisins américains. C'est 40 à 50% de la clientèle touristique.
À quelques pas de là, l'une des plus belles boutiques d'art inuit de Montréal, son patron, M. Namour, s'ennuie dans son magasin déserté.
C'est horrible. Ça fait presque un an et demi maintenant, elle n'a pas vu de touristes. Alors c'est le moment, M. Trudeau, d'ouvrir la frontière.
Mais M. Trudeau reste ferme. Oui au voyage pour les doubles vaccinés canadiens, non aux autres. Le PDG de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, ne comprend pas.
On s'explique mal pourquoi baser sur la nationalité alors que les Américains sont doublement vaccinés.
Sauf changement de pied du gouvernement en juillet, Montréal devra cet été encore compter exclusivement sur sa clientèle canadienne pour assurer la survie de ses restaurants, hôtels et commerces. À Montréal, Hélène Jouan, France Inter.
Au Royaume-Uni, là non plus, on ne badine pas avec le respect des mesures sanitaires. Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, a dû démissionner après avoir été surpris en train d'enfreindre les règles anti-Covid et les gestes barrières. Il a eu une liaison avec l'une de ses conseillères dans son bureau. Il ne pouvait plus rester au gouvernement Londres, Laura Calmus.
La pression devenait insoutenable et sa position intenable. Alors hier, en début de soirée sur Twitter, Matt Hancock annonce sa démission.
Je comprends les énormes sacrifices que vous avez tous faits pendant des mois de pandémie et ceux qui imposent ces règles doivent également les respecter et c'est pour cela que je dois démissionner.
Tout commence vendredi dernier avec la une du tabloïd Le Sun qui publie la photo du ministre marié et père de trois enfants en train d'embrasser langoureusement une de ses conseillères. Matt Hancock n'est pas spécialement critiqué pour son infidélité mais car la photo, extraite d'une vidéo de surveillance, date du 6 mai dernier, date à laquelle les accolades et les rassemblements en intérieur étaient encore interdits. Puis hier, le tabloïd enfonce le clou en diffusant la vidéo complète de l'étreinte avec Gina Colladangelo, une amie de longue date dont la nomination assez discrète au ministère de la Santé a par ailleurs déjà fait polémique. Elle démissionne également de son poste d'administrateur non exécutif. Boris Johnson avait initialement accepté les excuses de son ministre et jugé le sujet clos et se dit « désolé de cette démission ». Londres, Laura Calmus, France Inter.
En France, Marseille, à la chasse aux déchets avec une nouvelle formule pour aider à financer la recherche sur la préservation du milieu marin. L'ONG Pure Océan à Marseille vient de lancer une application et un kit vendu en grande surface. Ce kit qui contient un simple sac de poubelle en forme de goutte bleue est vendu 5 euros. L'objectif est de ramasser les déchets en étant en plus un mécène qui finance la recherche. Reportage à Marseille, Olivier Martoc.
Chaque week-end, des centaines de promeneurs arpentent les plages de Marseille ou les Calanques, un sac plastique à la main.
Je ramasse les bouts de plastique à cause du vent. Il y en a de partout et ça va dans la mer et après ça pollue.
Au plaisir de la marche vient effectivement s'ajouter celui d'apporter sa contribution à l'environnement en ramassant des déchets. Partant de ce constat, Thomas de Villancourt a imaginé un nouveau système de financement pour l'ONG coupure océan.
Avec la goutte bleue, on peut faire un petit geste, simple, acheter un produit à 5 euros pour que 80% de cette somme finance des programmes de recherche. C'est un produit d'engagement. Quand on ramasse un mégot, un déchet plastique ou 40 litres de déchets sauvages, avec l'application, on peut faire ses photos avant-après. Parce que si on ne partage pas son engagement, ça ne va pas faire un mouvement.
En 15 jours, plus de 50 000 kits ont été vendus. L'objectif pour cet été est d'en vendre 10 fois plus, soit 2 millions d'euros directement versés à des laboratoires de recherche appliquée. David Sussman, le président de la Fondation.
Nous voulons une recherche extrêmement rapide. Nous avons un groupe de travail qui se réunit tous les mois avec tous les projets que nous suivons. Et vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes complètement transparents là-dessus, bien sûr.
Quant au supermarché, si beaucoup jouent le jeu en mettant en avant le kit La Goutte Bleue, c'est parce qu'en plus de l'image, ils font une marge très confortable. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Le Tour de France avec une première étape hier bien chaotique et deux énormes chutes collectives. Quatre coureurs ont été contraints d'abandonner. En revanche, Chris Froome sera bien au départ de la deuxième étape aujourd'hui à Perros-Guirec. Et Julian Alaphilippe, notre champion du monde, s'élancera avec le maillot jaune, Fanny Lechevestrier.
Une certitude, Julian Alaphilippe fait partie à nouveau des favoris du jour. C'est une montée courte et intense qui lui correspond. Il l'a reconnu d'ailleurs hier soir en conférence de presse. Et il a également précisé qu'il se battrait jusqu'au bout pour défendre son maillot jaune, au moins durant toute la première semaine. Après, on a vu d'autres coureurs déjà très affûtés hier dans la fosse au loup, à commencer par Primoz Roglic, deuxième du tour l'an passé. Et puis, pourquoi pas voir aussi David Godu en jambes lui aussi, et qui connaît parfaitement Mur de Bretagne. C'est sur ses routes d'entraînement. À noter un dernier élément important dans le déroulé de l'étape, la météo. La pluie devrait être moins abondante que prévu, mais des averses sont possibles. Le ciel se montre d'ailleurs de plus en plus menaçant.
Alors la course est bien lancée, mais l'épisode d'hier et les chutes dans le peloton ont fait réagir les organisateurs du Tour qui ont porté plainte. Une spectatrice est à l'origine de la première chute, Fanny.
Une spectatrice toujours recherchée par la gendarmerie du Finistère après la plainte contre X déposée par le Tour de France. Mais c'est un appel général, ou plutôt un rappel des règles de sécurité élémentaires au bord des routes que lance aujourd'hui l'organisation de la course. On annonce encore énormément de monde. Et hier, on a vu trop d'enfants traverser la route de la course, échappant à la vigilance de leurs parents, par exemple. Et le peloton en a payé un lourd tribut sur les chutes, avec 5 coureurs qui ont d'ores et déjà abandonné. D'autres, comme Froome, Hirschi ou Perrichon, repartent aujourd'hui, mais Perrichon avec 12 points de suture à la jambe. Certains pourraient devoir donc jeter l'éponge dès cet après-midi, avec en plus au menu une double montée de Mur de Bretagne. Cela ne va pas être de la rigolade.
Fanny Lechevestrier, effectivement, le départ de la deuxième étape à 13h20 entre Perros et Guirec et Mur de Bretagne, guerre les dents. Merci d'avoir suivi ce journal, journal réalisé dans des conditions dégradées en raison d'un mouvement de grève à Radio France. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas, les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Jean-Michel Golinski.
Des orages cet après-midi dans les températures très différentes entre l'Est et l'Ouest, avec 18 à 20 degrés prévus près de la Manche et de l'océan, facilement 10 à 12 de plus sur les régions de l'Est, et 20 à 24 entre le Nord, le bassin parisien et le quart sud-ouest. Avec une certitude, cet après-midi, les départements méditerranéens vont conserver un temps plutôt agréable et sec, malgré le vent et un ciel voilé, alors que partout ailleurs, l'ambiance est incertaine, ponctuée d'averses à connotation orageuse. Des orages devenant plus forts cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine, entre le Massif central Rhône-Alpes et le quart nord-est, avec dans cette zone 19 départements placés en vigilance orange. Demain, excepté près de la Méditerranée, les orages vont rythmer la journée, avec toujours par moments de fortes pluies et même de la grêle sur les régions les plus à l'est.
Jean-Michel Golinski de Météo France.